Seulement maintenant, les enjeux sont beaucoup plus élevés. Si vous donnez une information à la mafia, le bénéfice est énorme. Alors qu'un flic aurait reçu 100 billets pour s'occuper d'un businessman qui voulait égarer un camion plein de télé et toucher la prime d'assurance, il reçoit désormais 5 ou 10 fois cette somme pour fermer les yeux. Ce genre de flic pouvait rester en place pendant 10 ans, sans jamais recevoir le moindre avertissement verbal ou écrit. C'était les anges de New York, vous voyez? Et il était impensable qu'ils dévient du droit chemin. Et ils étaient tous comme ça? Tous corrompus? Mon Dieu, non, pas du tout. Il y avait une bonne proportion de types honnêtes qui travaillaient dur et faisaient leur boulot. Mais mon père, le grand héros pour qui tout le monde semble avoir la trique, le type à la cheville duquel je n'arrive même pas, il était corrompu. Et pour autant que je sache, il était peut-être le pire de tous. Et ça vous rend amer quand vous comparez à lui. Amer? Pourquoi je serais amer? Ce connard est mort. Je ne vous demande pas si vous êtes amer envers lui. Je veux savoir si ça vous reste en travers de la gorge quand les gens le décrivent comme un héros alors qu'il n'en était pas un. Les gens comprennent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Je n'ai ni le temps ni le désir de les faire changer d'avis. Je crois que le fait que je sache la vérité me suffit. Vraiment. Vous le pensez vraiment? Eh bien merde, j'espère, parce que je n'ai rien d'autre. Alors, dites-moi comment il était. Et comment étaient ces gens, les anges de New York? C'étaient tous des flics du BCCO. Et ils étaient tous aussi tordus que des hameçons. Une poignée d'entre eux a grandement facilité la tâche de la mafia à l'aéroport JFK. Le casse de la Lufthansa, j'ai vu les affranchis. Eh bien, vous avez vu le drapeau en haut de la montagne, ma petite, mais vous n'avez pas encore vu la montagne. Mais j'ai peur que ça ne doive attendre. J'ai un nouvel équipier à rencontrer ce matin. Franck, bon sang, Franck, c'est pour ça que vous devez arriver à l'heure. Si nous abordons un tel sujet, nous devons aller jusqu'au bout avant de le laisser tomber. La vie continue, vous savez. Je suis sûr que vos journées sont aussi excitantes que les miennes. Bon, nous continuerons demain. D'accord. Et sinon, ça va? Ça va, oui. Vous dormez? Par intermittence? Vous voulez quelque chose pour vous aider à dormir? Bon Dieu, non. Si je m'engage dans cette voie, je n'en reviendrai jamais. Ok, Franck. Je vous verrai demain. Passez une bonne journée. Chapitre 10. Radic et Parrish ne s'étaient pas vus depuis 2 ou 3 bonnes années. Radic venait des stupes, et il y était resté jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que ce qu'il voyait et entendait n'était pas si anodin que ça. Au bout d'un moment, les junkies morts, les dealers interrogés, les dossiers classés sans suite finissaient par vous hanter jusqu'à chez vous. Aux yeux de Parrish, Jimmy Radic semblait exactement le même. Aux yeux de Radic, en revanche, Parrish semblait avoir perdu 10 kilos et pris 10 ans. Il portait les stigmates spirituels du buveur à la mauvaise conscience. Un double ou deux pour adoucir les déceptions de la journée, deux de plus pour soulager la culpabilité d'avoir bu, et à partir de là, tout partait à volo. Les cas les plus sérieux n'avaient pas dessoulé quand ils arrivaient au boulot, et ils passaient 2 services sur 5 à l'infirmerie. Chaque fois qu'ils essayaient d'arrêter picoler, ils replongeaient aussi sec. Je n'ai pas besoin de faire les présentations, n'est-ce pas? Demanda Averso. Vous vous connaissez déjà. Quelqu'un frappa à la porte. Averso beugla. Entrez! Et le sergent Valderas pénétra dans la pièce. Valderas était flic dans le sang. Il n'avait jamais rien voulu d'autre, et il ne voudrait jamais rien d'autre. Chaque soir, il se repassait une chemise propre pour le lendemain. Franck, dit-il d'un ton neutre, et il tendit la main vers Radic qui se leva de sa chaise. Ils échangèrent une poignée de main. Et Radic se rassit tandis que Valderas s'appuyait contre le mur. Anthony a une bonne équipe ici, dit Averso à Radic. Ce dernier jeta un coup d'œil à Parrish. Les paroles d'encouragement habituelles. Vous avez Frank ici même, et aussi Paul Hayes, Bob Welland, Mike Rhodes, Stephen Pagliaro, Stan West et Tom Engel. Vous les connaissez? Certains, répondit Radic. Bien, vous formerez l'unité 2 avec Frank. 8 inspecteurs en tout, 4 paires, 2 tranches horaires inversées toutes les 2 semaines. Anthony, ici présent, vous mettra au parfum pour ce qui est du planning. Les heures supplémentaires sont plutôt fréquentes. Payez une fois et demie pendant le week-end si vous êtes de repos, double pendant les jours fériés si vous n'êtes pas déjà de service. Rien n'y a compliqué. Vous n'êtes pas marié, exact? Radix secoua la tête. Non. Vous l'avez été? Encore un non. Vous avez des enfants à charge? Non, pas d'enfants. Parents ici à New York? Tous les deux morts, répondit Radic. Donc, vous êtes seul dans ce vaste monde cruel. Radic sourit. On peut dire ça. Bon, vous vous entendrez bien avec Franck. Franck n'a personne à charge non plus. Pas vrai, Franck? On s'occupera l'un de l'autre, n'est-ce pas, Jimmy? Fit Parrish. Oui, monsieur Parrish, répondit Jimmy d'un ton martial. Valderas secoua la tête. On a une paire de têtes brûlées, observa-t-il. On verra les dégâts qu'ils provoqueront à eux deux. Emmenez-les, dit Aversault. Ils sont votre problème maintenant. Valderas s'assit avec Radic et Parrish dans la salle de l'unité 2. Demanda à Radic s'il voulait du café. Celui-ci déclina. Acceptez, conseilla Parrish. C'est la dernière fois qu'il vous le proposera. Êtes un putain de rigolo, lança Valderas. Mais vous faites moins le malin quand il s'agit de vos stats. J'étais à 68 hier, répliqua Parrish. Et Hayes et Welland sont à 82, Rhodes et Pagliaro à 79. Vous leur refilez les affaires faciles? Valderas hésita. Vous voyez? Fit Parrish. C'est exactement ça. Vous leur refilez les affaires faciles, et à moi les casse-couilles et les déprimantes. Putain, est-ce que vous pouvez être transparent? Valderas regarda Radic. Vous voyez à qui j'ai affaire. Peut-être que votre influence stabilisatrice le ramènera à la raison. Je ne sais pas, sergent, répondit Radic en faisant la moue. On m'a dit que c'était vous qui aviez besoin d'aide. Parrish s'esclaffa. Valderas roula les yeux. Ça suffit, lança Parrish. Nous avons du pain sur la planche. Votre cadavre dans l'allée, dit Valderas. N'était-ce pas un informateur il y a quelque temps? Ne travaillait-il pas pour Charlie Power du 17e district? Non, ça devait être un autre Lange. Celui-ci, je le connaissais. Je ne connaissais pas sa sœur, mais je connaissais Danny. C'était juste un consommateur, un voleur à la petite semaine. Supérette, boutique d'alcool, ce genre de conneries. Il s'est retrouvé deux ou trois fois en cellule à l'époque, mais rien qui justifie qu'on fasse un rapport sur lui. Vous avez quelque chose? Sur lui ou sur sa sœur? L'un ou l'autre? Danny s'est pris une balle de 22. Je suppose qu'elle doit être aplatie comme une crêpe. Nous n'en tirerons rien. Je me renseigne sur ses copains. Rien pour le moment. Je ne me suis pas encore penché sur sa sœur. Elle a été étranglée dans l'appartement de Danny. 16 ans. Très jolie. Il aurait pu la tuer? Demanda Valderas. Je ne crois pas, non. Si ça avait été une fille riche, alors peut-être, je dis bien peut-être que Danny aurait étranglé quelqu'un pour un paquet de fric. Mais sa sœur? Je ne crois pas. Et les parents? Tous les deux morts, à ce que j'ai entendu. Accident de voiture il y a quelques années. Il semblerait qu'une femme à Williamsburg s'occupait de la fille. Alors comment comptez-vous faire des progrès aujourd'hui? Eh bien, pour autant que je sache, le type du métro est simplement tombé sur un cinglé opportuniste. J'ai parlé à sa femme, ses gosses, ses collègues, tous les gens à qui j'ai pu penser. C'était juste un type ordinaire. Il n'avait pas d'ennemis, pas de litige, ne buvait pas, ne fumait pas, n'allait pas voir les prostituées, ne se droguait pas. Le genre de type qui meurt et que sa femme a oublié le week-end suivant. Pour ce qui est de la prostituée, nous avons reçu un tuyau d'une de ses amies, une autre fille qui a signalé un client qui parlait d'en buter une, histoire de rigoler. Un vrai marrant, vous savez. Quant au type à l'université, celui qui s'est fait poignarder, on dirait qu'il a arnaqué deux dealers. Il n'était pas le gentil petit garçon que ses parents nous ont décrit. Il a piqué 2 000 $ à un des fournisseurs du campus. Bref, je suis sûr que cette affaire sera résolue d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, la seule affaire sur laquelle vous n'avez fait aucun progrès est celle du frère et de la sœur. Parrish acquiesça. Alors, attaquez-vous-y dès aujourd'hui, dit Valderas. Prenez un peu de temps avec Jimmy, faites-lui faire le tour des lieux, montrez-lui où sont les chiottes, son bureau, la routine. Puis traînez vos culs de feignasse hors d'ici et découvrez qui voulait la mort de Danny Lange et de sa petite sœur. Parrish se leva. Et vous? Dit Valderas à Radic tandis que celui-ci se levait pour quitter la pièce. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Vous arrivez précédé d'une bonne réputation. Faites en sorte qu'il en demeure ainsi. Ok? Chapitre 11. Lange était juste le pauvre type habituel, déclara Parrish. Son partenaire et lui étaient assis à des bureaux qui se faisaient face. Radic vidait un carton dans ses tiroirs.